Ok, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 16e podcast du Smart Training Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un nouvel invité. Je vais te laisser te présenter directement ton nom, ton prénom, ton métier, si on peut dire que si on doit définir par un métier, entre guillemets, mais en tout cas, très rapidement, succinctement, qui tu es.
Carrément, bah, merci Sam de me recevoir.
Yannick.
Donc, ça fait plaisir de te retrouver aussi. Donc, Corentin Lemeteyer, donc moi je suis passé par plusieurs casquettes. Mon parcours, c'est un parcours STAPS classique universitaire. J'ai d'abord été préparateur physique pendant quelques années, 5-6 ans. Après, j'ai eu une double casquette prépa mental, prépa physique. J'ai touché un petit peu de la réathlétisation aussi. J'ai travaillé dans des clubs pro, dans des structures fédérales. On y reviendra sûrement après. Et ensuite, là aujourd'hui, je monte mon entreprise uniquement en préparation mentale. Donc, je supprime la casquette prépa physique, même si je m'en sers encore aujourd'hui pour bosser et pour prendre en compte le projet global du sportif. Mais voilà à peu près où j'en suis. Et puis moi, niveau de pratique sportive, je suis passé par beaucoup de hand pendant une dizaine d'années. Et puis aujourd'hui, plus multisport.
Ok, cool. Ok. Pour l'anecdote, Corentin, je l'ai rencontré à la faculté de Brest. En tout cas, il était. Il est mon aîné. C'est pas ma génération, mais en tout cas, il était dans le même cursus que moi, le même master que moi à l'époque. On s'est côtoyé très rapidement avant d'échanger un peu plus. C'est vrai que moi, du coup, je te connais via ce biais-là. Mais est-ce que tu peux déjà revenir sur comment tu en es arrivé à te mettre dans des études de sport, à aller vers un cursus STAPS? Il me semble que tu viens d'Angers à la base, ou en tout cas que tu as fait ton premier parcours à Angers. Pourquoi, comment, c'est un peu quoi? Tu as dit que tu étais handballeur à la base, est-ce que c'est en lien avec ta pratique? Ou en tout cas, comment tu en es arrivé déjà à rentrer dans le monde du sport, pour aller étudier un petit peu les sciences du sport?
Ouais, carrément. Là-bas, je te dirais que c'est le goût un peu pour la découverte des sciences, que ça soit à partir du lycée sur les sciences de la Terre, sur un peu je te dirais la compréhension un peu des sciences humaines, des sciences dans la nature, de comment fonctionne l'environnement autour de moi. Et ça, c'était sorti de lycée. Et puis, comme tout le monde, tu sors du lycée, tu sais pas trop quoi faire. Et puis, je faisais du sport, je faisais beaucoup de hand,
Ouais.
aussi pas mal d'autres choses. Et puis, j'avais une famille de sportifs. Le cursus STAPS, j'avais fait c'est à l'époque les forums, où on
Ouais.
choisissait un petit peu tous les métiers. Et puis, en fait, ce qui tombait, c'est le cursus STAPS. Et je suis parti à Angers, directement après lycée. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas. Et moi, ce qui m'a. Alors, je te dirais que la L1 L2, j'étais plus dans la découverte
Ouais.
de ce qu'était STAPS, de ce qu'étaient les sciences du sport. Et puis, c'est en troisième année où j'ai vraiment pris goût pour l'entraînement sportif, comprendre comment le corps fonctionnait, en fait, dans le sport, dans un contexte sportif, pour ensuite, derrière, mieux l'entraîner et l'accompagner.
Ouais, ok. Il me semble que la faculté d'Angers, l'IFEPS, c'est l'IFEPS ça?
Ouais, il fait ça. Ouais, c'est ça.
C'est une faculté qui est privée. En tout cas, c'est une université privée. Enfin, c'est un cursus privé. C'est vrai que tu vois, moi, pour avoir échangé là-dessus avec Ronan aussi un peu, pour avoir pas mal réfléchi, parce que j'ai failli aussi aller à Angers en master, j'avais un peu l'impression que le cursus, celui qu'Angers proposait, était quand même plutôt quali par rapport à ce qu'on peut retrouver dans l'université publique. Est-ce que toi, ta licence, t'en as retiré des points très positifs, parce que tu vois, comparativement à ce qu'on retrouve en STAPS, par exemple, à Brest, sur les licences, ou un peu partout, on retrouve pas mal de critiques sur les contenus, sur un petit peu le vieillissement des contenus, si je peux dire ça. Est-ce que sur Angers, toi, t'as trouvé vraiment que c'était cohérent, que les profs étaient qualitatifs, et que t'as mis un premier pied dans l'étrier, mais qui était de manière positive, quoi?
Ouais, complètement. Je réfléchis en même temps. Je pense que, alors, pour parler que de ce que je connais et de ce que moi j'ai entendu dire, c'est vrai que j'avais des potes qui étaient dans d'autres facultés publiques, notamment Rennes, Rennes-Brest. C'est vrai que ce qui ressortait, c'était surtout la régularité des cours.
Ouais.
Nous, je pense qu'à l'IFEPS à Angers, on avait quand même une régularité assez importante. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, je te dirais que c'était la quantité de pratiques et de sports différents. On avait quand même, je dirais, sur la première année, on en avait au moins 12. Et sur la deuxième, on en avait ouais, 5, 6. Troisième point, c'était les stages. Ça, c'était vraiment ce que je m'en suis rendu compte après. C'était vraiment un point fort. C'est-à-dire qu'on est parti en stage dès la première année. On avait une semaine de stage. Deuxième année, on avait un mois de stage. Non, je te dis une bêtise. 2 semaines, 2, 3 semaines de stage dans une structure pro. Et la troisième année, on avait 1 mois complet de stage. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Plus tous les stages en milieu scolaire, moi, ce qui m'intéressait pas vraiment, mais qui a permis quand même de développer quelques compétences. Les milieux scolaires, c'était toutes les semaines, dans des écoles avec des gamins, dans la cour, etc., quoi.
Ouais, je vois.
Et puis, donc je te dis trois. Et puis la dernière chose. Je pense que ouais, c'est les contenus qui étaient proposés et la qualité des intervenants. Je m'en suis rendu compte. Donc moi, on en reparlera peut-être après. Je suis reparti à Brest pour un master après 2 ans d'expérience professionnelle, donc après la licence, donc 4 ans, 2 ans après la licence, la fin de la licence. Et je me suis rendu compte du delta où les contenus que je voyais en master 1, c'était les mêmes contenus que je voyais en licence 3.
Ok,
Donc là, il y avait un
c'est
petit.
intéressant. Ok, ça c'est intéressant, tu vois, c'est quelque chose que je savais pas. Tu as fait une pause entre ta licence et ton master, ce qui n'est pas forcément hyper courant. Tu peux nous expliquer c'était quoi la démarche, pourquoi tu as fait cette pause et surtout pourquoi tu es revenu derrière vers un master?
Ouais, carrément. Pourquoi je fais cette pause en licence 3? C'est une bonne question. Parce que je pense que je veux partir dans le milieu pro. La licence, on a fait beaucoup de théorie. On a eu quelques stages, mais bon, un mois de stage, c'est pas là où tu vas apprendre le plus. Et j'avais ce désir de partir sur le terrain et puis d'aller me confronter un peu au réel et ce que j'avais appris, quoi. Et en fait, au moment où je termine ma licence, j'ai une offre d'emploi qui se présente juste à côté d'Angers, entre Angers et Laval. Pour ceux qui connaissent Château-Gontier, qui était, ils ouvraient une section cross-training, crossfit, une petite salle de préparation physique. Ils cherchaient un responsable d'une salle. Et donc, j'ai postulé, j'ai été pris et j'ai passé 2 ans là-bas où j'ai beaucoup appris justement de terrain et de prépa physique.
Ouais, ok. Ouais, donc t'avais déjà finalement 2 ans d'expérience hein, d'arriver en master où tu as fait beaucoup de prépa physique. Ça, c'est un truc intéressant que je savais pas. Et pour autant, du coup, tu vas à Brest en master qui est plus orienté psycho, même si, bon, moi je l'ai fait aussi alors que j'étais plus orienté prépa, hein, mais toi, pourquoi tu choisis d'aller à Brest? Parce que finalement, c'était pas pour une raison de stage ou quoi que ce soit, étant donné que t'étais pas de la région à la base. Pourquoi aller vers là? C'est déjà une transition vers la partie psychologique, mentale de la perf?
Carrément,
C'est ça?
j'y vais parce que sur les 2 ans d'expérience en prépa physique, je sens qu'il me manque un truc. Surtout, je te dirais en fait, sur la deuxième année de mon expérience à Château-Gontier, j'étais entraîneur et je coachais une équipe féminine de hand
Ok.
en le niveau, je ne me rappelle plus, c'est la pré-nationale, je crois,
Ok.
ouais, niveau régional du coup. Et quand j'ai accompagner cette équipe, j'ai senti qu'il manquait des outils et des billes pour comprendre ce qui se passait quand même sur le terrain. J'avais le côté physique, j'avais le côté charge d'entraînement, j'avais le côté un petit peu technique handball, mais j'avais pas forcément le côté justement psycho et accompagnement d'un collectif. Et ça, c'était assez complexe à gérer. Et c'est là où combiner avec moi ce que je voyais aussi en salle de sport, en salle de prépa physique, et puis ce qui se passait dans l'accompagnement, surtout par exemple de l'accompagnement one-one en individuel, où tu te rendais compte qu'il y avait bien le côté humain qui rentrait beaucoup en compte,
Ouais.
et que les gens venaient pas que pour faire du sport. Et c'est là où je me dis, mais ça serait intéressant quand même d'avoir la double casquette et d'aller creuser ce côté-là.
Ouais.
En introduction, j'avais creusé un petit peu grâce à un réseau que j'avais construit justement à Château-Gontier avec des sophrologues, avec des préparateurs mentaux. J'avais été les questionner, j'avais appris un petit peu d'eux. Et puis ensuite, le master qui était une aubaine, en fait, pour se spécialiser.
Ouais, ok. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu mets en avant le fait que c'est en allant te confronter au terrain que tu as remarqué qu'il pouvait te manquer des billes pour pouvoir répondre aux attentes ou en tout cas à ce que tu voulais mettre en place avec les athlètes. Je trouve que c'est une démarche qui est hyper noble parce que pour travailler avec beaucoup de. Bah, pour avoir travaillé et continuer de travailler avec pas mal d'entraîneurs, je me rends compte que c'est pas une démarche que tout le monde fait de se dire ok, aujourd'hui, j'ai pas toutes les compétences pour réussir à accompagner au mieux les athlètes et surtout. C'est pas comme si tu étais reparti sur une formation de 1 mois en ligne de prépa mentale. Tu repartais sur un projet qui quand même te mettait un peu en danger. Changer de ville, changer un peu d'environnement. Bon, je pense que c'est quelque chose qui te va bien aussi, mais en tout cas, c'était quand même un sacré engagement de repartir sur un master alors que en plus, tu étais quand même sorti du cursus universitaire. Chapeau, c'est cool, je trouve, c'est une belle démarche. Est-ce que bah, du coup, tu fais le choix du master de Brest, tu passes 2 ans ici? C'est là que je t'ai rencontré. Est-ce que ces 2 ans ont apporté ce que tu attendais au moment où tu t'es posé la question en tant qu'entraîneur de savoir ce qui pouvait te manquer?
Je dirais oui, parce que moi, ça m'a relancé dans, comment dire, dans mes recherches et dans l'approfondissement justement de connaissances.
Ouais.
Je pense que si je serais resté sur le terrain, je me serais un petit peu endormi, peut-être resté que sur la prépa physique. J'aurais pas découvert aussi, alors, il y avait aussi ce questionnement-là, c'était revenir sur de haut niveau, parce que c'était une petite salle de préparation physique, on avait du niveau régional, mais on n'avait pas du sport de haut niveau. Et l'intérêt de Brest, c'était d'avoir un tremplin, une passerelle pour aller faire des stages justement dans
Ouais.
des milieux de niveau. Et c'est ça aussi que j'attendais du master. Donc ouais, complètement. Et puis après, je te dirais que ça m'a apporté aussi beaucoup d'ouverture. Je te dirais pas beaucoup de réponses, mais beaucoup d'ouverture sur des nouveaux concepts en psycho et en préparation mentale.
Ah, c'est
Ouais,
sûr,
carrément.
c'est sûr que le master ouvre des ouvertures plus que donne des réponses, mais c'est aussi ça qui est cool. Quand tu as
Ça.
fait ce master, c'est là que tu as commencé du coup tes premiers. Enfin, tu avais déjà d'expérience dans le sport de haut niveau, parce qu'il me semble que tu avais été dans le hand en Normandie aussi déjà au préalable. C'est ce que j'avais vu.
Ouais, complètement.
En arrivant, on va pas revenir sur tout parce que sinon ça va être très très long. Je pense que tu as quand même un parcours déjà rempli. Mais sur ton cursus en master, tu as été sur de l'escrime, il me le semble. T'as fait escrime et triathlon et BBH, donc
C'est ça.
Brest-Groningue-Handball. Qu'est-ce que tu retires de ces trois stages? Parce que ces trois stages dans des sports différents, dans des contextes différents, notamment financiers. Qu'est-ce qui t'a le plus
Ouais,
plu?
ouais, ouais.
Qu'est-ce que t'en retires? Comment t'as vécu ces stages-là?
Exactement. La première année, pour remettre le contexte, moi donc je sortais beaucoup d'univers du hand. J'avais fait tous mes stages dans des clubs pro de hand Angers. Je suis passé à Caen aussi en dernière année de licence. L'idée, c'était de découvrir d'autres sports, donc de créer des compétences d'adaptation d'autres disciplines.
Ouais.
C'était du sport co, donc c'est pour ça que j'ai choisi deux sports individuels, qui sont l'escrime et le triathlon. Le triathlon qui était aussi un support de mémoire, parce que j'ai fait mon mémoire sur la concentration sur les cours d'Ironman, donc avec des athlètes qui faisaient les championnats du monde à Hawaï. Super intéressant. Et puis l'escrime, c'était plus avec des jeunes. Je pense que ce qui m'a apporté du coup, c'est s'adapter à une nouvelle discipline, avoir un regard aussi complètement neuf, pas neuf, mais complètement neutre sur une discipline. Moi, le hand, je le voyais de mon prisme de joueur et d'athlète, ce qui peut des fois être un peu biaisant et pas forcément la bonne solution et la bonne idée. Et donc, ça m'a permis vraiment de poser un truc concret, un truc, on va dire, de remettre les bases à zéro et de dire, OK, comment ça fonctionne ce sport,
Ouais.
c'est quoi ce qui est important, qu'est-ce qui est important, c'est quoi la technique, etc. Ça, c'était vraiment cool. Donc, ça, c'était sur les deux premières années. Et puis, pour terminer, des points faibles, oui, forcément, c'était le côté un peu, le côté financier, le côté structuration des clubs qui étaient pas du tout là, c'est du club amateur. Mais où il y avait quand même des choses à apprendre et quand même des choses intéressantes.
Ouais.
Donc ça, c'était pour la première année. Et deuxième année, donc c'était au Brest Bretagne Handball, le club de Brest féminin de hand de la région. Et là, pareil, je te redis un petit peu ce que ça m'a apporté.
Ouais, du coup, tu avais fait on va y revenir parce que c'est pas un truc sur lequel je voulais aller, mais sur tes thèmes de mémoire, c'est vrai que c'est intéressant du coup. Sur ton M2, tu as fait un autre mémoire, c'était quoi le thème?
J'ai pas fait le mémoire M2. On
Ah, t'as
avait
pas
une
fait.
passerelle
Ah oui, c'était
avec la
le.
construction d'un business plan.
Yes, autant pour
Ouais.
moi, il s'est échappé.
Exactement.
Ok, bah y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Du coup, sur ton stage au BBH, c'était quoi tes missions? Tu étais sur la prépa physique, plus du coup, à ce moment-là, il me semble. Au-delà du fait de dire que bon, c'est un contexte de stage qui est quand même plutôt porteur parce que c'est une structure qui est cadrée, moi, tu vois, qui a conscience de ce que représente le BBH en termes de handball féminin maintenant que je suis dans le sport pro et que je vois les différences avec d'autres sports et d'autres moyens. Est-ce que toi, le BBH, tu t'es dit en sortant de ça que c'était potentiellement ce qui devait se faire à haut niveau aujourd'hui, dans le sens où c'est un club qui a quand même un projet de performance qui est assez développé, avec une considération pour le travail physique, le travail mental, etc. Tu vois, typiquement, moi, je suis sorti du Pôle Espoir et de mon cursus à Brest, où j'ai vu un peu tout ce monde-là, en me disant que c'était ça partout. Et en fait, quand je suis arrivé dans les autres structures professionnelles, pourtant évoluant à des niveaux quasiment similaires et même similaires avec le volley, je me suis rendu compte qu'on était dans des mondes différents en termes de structuration et de possibilités. Est-ce que toi, avec ce que tu avais vu par exemple à Caen ou à Angers, ce que tu voyais cette fois-là au BBH, et ce que tu as pu voir après, notamment au Campus Sport Bretagne, c'est quelque chose qui t'a aussi choqué cette différence de considération pour le projet de perf?
Ouais, complètement. Je te dirais le budget avant tout, quoi. C'est quand j'ai pu
Ouais.
connaître conscience du budget faramineux qui était à l'époque. Je te dis de bêtises, mais je crois qu'on était sur. Non, je dirais une bêtise si j'ai un chiffre. Mais c'était le meilleur budget à
Je
l'époque.
pense que ça devait être entre 6 et 8 millions, hein. Un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, je crois que c'était 8 millions.
C'était
Ouais, j'allais dire 8 millions.
c'était ça.
C'était ça le meilleur budget des clubs féminins en LNH. Bon, forcément, ça fait la différence quoi,
Ouais.
sur le staff, sur quantité de personnes, sur la professionnalité des personnes qui sont à l'intérieur. Donc, si, complètement, j'ai vu la différence. Je m'en suis pas rendu compte, je te dirais tout de suite.
Ouais.
Je sais que c'était gros parce qu'on en parlait, parce que voilà, c'est quelque chose qui est important pour la ville de Brest. Et puis c'est en arrivant dans le système que ouais, tu te rends compte du fonctionnement bah, d'un vrai staff de haut niveau. Et ça permet aussi de replacer le curseur entre qu'est-ce que un projet de perf avec quelque chose de vraiment structuré et
Ouais.
qu'est-ce que du coup les clubs où j'étais passé en stage où c'était forcément moins structuré. Ouais, complètement.
Ouais, ok.
Ouais, je te dirais, pour résumer, ça m'a replacé un peu l'échelle entre les structures.
Ok. Sur le, on va juste en parler peut-être 3 minutes sur ton mémoire de M1, du coup, bah, du coup qui représente ton mémoire de
Ouais,
master.
ouais, ouais, ouais.
Tu as parlé de concentration dans les sports d'endurance comme le triathlon. C'est un sujet qui est quand même hyper à la mode, si je puis dire. En tout cas, ça se développe énormément. Qu'est-ce que tu en as retiré si tu veux faire une infographie en 1 minute de ce travail-là? Ou en tout cas, c'est quoi les 2-3 éléments clés sur lesquels on peut aller chercher si jamais on est intéressé par le sujet de la concentration dans les sports d'endurance?
Vraiment, je dirais, alors j'ai même un auteur à donner, c'est Brick, Brick. Donc si tu veux aller creuser là-dessus, il y a plein de
Yes.
choses. Il y a un bouquin aussi qui est en anglais, je sais plus comment il s'appelle, c'est spécialisé justement sur la
Ok.
préparation mentale appliquée au sport d'endurance, qui est vraiment chouette, qui est assez récent, en 2021, je crois. Je pourrais te redonner le lien si besoin
Yes.
pour la suite. En résumé, on se rend compte qu'en fait, les sports d'endurance, la perception de l'effort joue énormément sur la fin d'un effort. C'est-à-dire que on pensait avant que c'était forcément que physio. C'est-à-dire que si c'était trop dur, et ben on arrêtait parce qu'on n'avait pas les capacités physiologiques d'y aller, donc force musculaire, endurance cardiovasculaire, etc. Et en fait, on se rend compte que il y a un super bouquin aussi qui a été fait, qui est en français, qui est très vulgarisé, qui s'appelle Endurance. L'auteur, je ne sais plus, c'est une couverture jaune. Qui est basé en fait à la base sur un récit de comment le marathon a été battu au niveau du record et comment Nike a créé justement un staff autour de, je ne dirais pas le nom parce que j'arrive pas à le prononcer, Kipolge, un engin.
Je te le laisse.
Donc voilà, merci, c'est gentil. Comment ils ont staffé autour justement pour battre en fait le record, et c'est hyper intéressant parce qu'il explique, c'est pour ça que j'en ai là-dessus. Et donc pour résumer, on se rend compte que ce qui va arrêter ton effort ou ce qui va gérer ton effort ou ton allure, c'est la perception que tu as de la difficulté.
Yes.
Donc forcément, si tu viens chanter un petit peu les processus qui sont en fait de la concentration, parce que tu fais attention à ton environnement autour de toi, plus à ce qui se passe à l'intérieur de toi, par exemple les sensations de fatigue, etc., pour te créer un petit peu un niveau de comment c'est dur ou pas, en gros, pour résumer.
OK.
Et de cette évaluation-là, tu vas prendre la décision de ralentir, d'accélérer, de maintenir ton effort, etc. Donc en fait, on se rend compte que toute la question d'allure de course, qui est essentielle en fait en sport d'endurance, parce que c'est ça la perf, c'est comment gérer mon allure de course le mieux possible sur une course ça va d'un 10 bornes à 42 bornes, voire plus, etc. Ou pour des Ironman aussi. Si du coup j'arrive mieux à gérer mon allure de course, forcément je vais mieux performer. Et donc ça, c'est directement lié au point d'attention que je vais utiliser dans la course.
Ok. Et du coup, concrètement, sur les points d'intention, sur quoi il faudrait se diriger?
Un exemple,
Ouais.
par exemple, alors il y a aussi, on a découvert qu'il y a aussi des points d'attention spécifiques entre chaque discipline, c'est-à-dire
Ok.
qu'entre la natation, le vélo et la course, c'est pas les mêmes et ça sera pas les mêmes qui vont être les plus intéressants à chaque fois. Je vais prendre un exemple tout bête. En natation, en triathlon, par exemple, pour combattre la monotonie, justement, de ne pas avoir de points visuels parce que dans la flotte,
Ouais.
il n'y a rien, tu ne peux pas te repérer. Donc, eux, par exemple, les stratégies qu'ils utilisaient, c'était beaucoup se concentrer sur les pieds, par exemple, du mec qui est en face. Ou
OK.
ils comptaient, par exemple, le nombre de battements, le nombre de coups de bras. Donc,
OK.
ça, c'est des stratégies qu'ils mettaient en place pour diminuer la perception de l'effort. Parce que si tu n'as rien dans l'eau et que tu ne peux pas te fixer sur ton attention sur quelque chose, ton effort devient encore plus dur parce que tu vas te fixer sur tes sensations. Ah, j'ai mal au bras, etc. Et donc,
Ouais.
ça augmente encore plus ta perception de l'effort. Alors que si tu vas te fixer sur quelque chose d'externe, eh ben, ça diminue ta perception d'effort et c'est beaucoup plus facile. C'est typiquement l'exemple quand tu cours avec quelqu'un ou tu cours tout seul, c'est la même chose.
Ouais. Ok, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que sur les pôles d'intention externes, il faut être sur quelque chose de concret, comme tu l'as dit, par exemple, les pieds devant, etc. Ou est-ce que ça peut être sur totalement autre chose, penser à ce que tu vas manger le soir, penser à ce que, tu vois, un sujet, mais vraiment extrêmement dissocié. Est-ce que ça, c'est une stratégie qui est intéressante ou est-ce que c'est pas du tout, pertinent?
Et bah, comme tu as dit, c'est la pertinence des points d'attention, ça dépend le moment de la course en fait.
Ok.
Est-ce que tu peux te permettre d'aller chercher? En fait, il y a donc les points externes, il y a deux catégories. Il y a la distraction, c'est-à-dire c'est toutes les choses qui ne vont pas être utiles à la course. Par exemple, le public. Le public, on s'en fout
Ouais.
pour performer, ce n'est pas quelque chose à prendre en compte. Quelque chose externe qui va jouer dans ta course, c'est par exemple un chrono qui va être affiché. Ça, c'est important de prendre en compte justement pour voir ton temps de passage ou un adversaire,
Ouais.
etc. Donc, il faut bien faire la différence entre est-ce que le point d'attention, il est pertinent, ce qu'on appelle pour la tâche, c'est-à-dire est-ce qu'il va être utile pour ma course ou est-ce qu'il va être inutile. Et du coup, ne pas se tromper aussi, parce que si on va chercher la distraction et du coup on se plante et qu'on n'est plus sur les points qui vont être intéressants pour performer, bah, on
Ouais.
risque de moins performer. Donc, il y
Ouais,
a cet équilibre aussi à avoir.
ok. Ok. Il me semble que, tu vois, j'avais entendu passer, notamment avec Marjorie Bernier, là, qui était intervenante au Master of Steps, la notion de brain endurance training. Est-ce que c'est un lien avec tout ça ou est-ce que c'est un autre sujet, le brain endurance training?
Non, non, complètement, ça a un lien. Et je crois que t'avais fait une petite étude sur les focus sur en
Ouais,
préparation
moi, c'était
physique.
plus sur les focus
Ouais.
en prépa physique, ouais.
Carrément. Et ben, sur il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment aussi avec la pleine conscience. Tu parles de Marjorie, donc j'y pense. Et la pleine conscience, donc c'est de la méditation en pleine conscience. Pour la gestion de l'effort, par exemple, sur de la musculation, si on revient à la préparation physique. Il y a beaucoup de choses à faire sur comment est-ce que je gère mon effort et comment je vais me concentrer sur autre chose quand ça devient dur pour justement
Ouais.
maintenir mon effort et pouvoir comment dire engager justement un effort de cette taille-là quoi. Et
Ouais.
donc là un exemple concret c'est quand tu es sous une barre justement c'est d'essayer de trouver des points d'attention au lieu de ça, parce que ça peut être soit des pensées. C'est-à-dire, tu vas dire, ah, c'est trop dur, j'en peux plus. Soit tu vas dire, ça chauffe trop, j'ai mal aux jambes, ça, c'est des sensations. Et soit tu vas dire, j'en ai marre, je suis en colère parce que j'ai pas envie d'être là. Ça, c'est des émotions. Donc, ça, ces trois choses-là, c'est justement essayer de se détacher de ça pour après se concentrer sur autre chose. Par exemple, ça peut être les sensations que tu as, avec les mains, avec la barre.
Ouais.
Ça, c'est une sensation corporelle et ça va te permettre justement de diminuer toutes les pensées qui vont diminuer la sensation de perception de l'effort,
Ouais.
etc.
Mais c'est intéressant, du coup, ça
Donc,
montre bien
ouais.
que finalement, il y a un lien qui est hyper étroit entre physio et psycho, et que le psycho joue forcément sur le physio, le physio joue forcément sur le psycho. Moi, j'en suis persuadé, mais plus sur les aspects récupération. Enfin, en tout cas, c'est plus dans mon contexte d'intervention quotidien, des choses que je vois, notamment autour de la pleine conscience et la respiration, parce que ça a des effets sur le système nerveux également. Mais même au-delà de ça, on voit que ça a des effets un peu sur d'autres aspects en prépa physique, et puis plus. Si on est un peu plus spécifique, sur le terrain directement avec les pensées, les points d'intention. Et j'ai l'impression que les points d'intention, c'est vraiment un game changer aujourd'hui sur la performance des athlètes, puisque peu d'athlètes sont, comment dire, éduqués à ça réellement. En tout cas, dans le sport collectif avec qui je bosse, il y a peu d'athlètes éduqués à ça. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui pour moi, est hyper intéressant. Ça passe peut-être par la formation des entraîneurs en premier, et après par l'intervention auprès des athlètes. Après, en tout cas, je pense que. Bah, c'est quand même un sujet qui est passionnant. En tout cas, merci pour ton retour là-dessus. Si on enchaîne un petit peu sur la suite de ton master, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée ton intégration dans le milieu pro? Qu'est-ce que t'as, sur quoi tu as embrayé et comment c'est arrivé?
Complètement. Tu veux, je repars à partir du stage au BBH sur le pro ou après le master?
Si le stage au BBH t'a apporté des choses au niveau pro, ouais, tu peux en parler un peu aussi. Et ouais, jusqu'à ton arrivée, tu vois, au Campus Sport Bretagne.
Carrément, je reviens rapidement sur le stage parce que c'est ça qui a initié aussi un petit peu cette démarche professionnelle.
Ouais.
Ça a beaucoup apporté sur la structuration d'une séance de préparation mentale. Donc la préparation physique, j'avais déjà pas mal. Mais par contre, sur la préparation mentale, j'ai beaucoup appris justement avec une personne aussi qui était en stage, alors qui était avec l'équipe professionnelle, qui s'appelle Jean-Paul Martinet,
Ouais.
qui est coach mental, qui a beaucoup d'expérience dans le haut niveau, où c'était très intéressant du coup d'avoir son retour et d'avoir des guidés justement par ses connaissances et son expertise. Donc moi, ça m'a permis d'approfondir comment on intègre la préparation mentale en fait au sein d'une structure. Et ensuite, pourquoi je suis parti à Dinard? En fait, c'est venu d'une offre d'emploi qui est arrivée en fin de cursus, où ils recherchaient en fait à créer un poste de responsable de la performance donc au Krebs de Dinard, donc qui est plus appelé Krebs aujourd'hui, qui s'appelle Sport Bretagne. Parce qu'en fait, c'est la région qui gère, c'est plus l'État. Les Krebs sont vraiment gérés surtout par l'État, mais là, c'est la région Bretagne qui le gère. Donc j'arrive à Sport Bretagne en septembre, donc 2 3 mois après le stage, ouais, en tant
Ok,
que responsable de la perf.
on va y revenir. Juste, tu m'as donné envie de parler de quelque chose là. Tu m'as parlé de comment gérer la préparation mentale en sport collectif. Moi, c'est un enjeu prioritaire parce que concrètement, c'est ce que je vis au quotidien. Enfin, ce que je vis
Ouais.
pas parce qu'il n'y a pas de prépa mentaux dans les structures où j'interviens. Et moi, j'interviens pas sur cet aspect-là, même si j'adore ça, mais j'ai pas le temps. Concrètement, au BBH, comment ça se passait? Si tu peux en parler. Et surtout, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour toi intervenir en tant que préparateur mental dans un sport collectif professionnel? Parce que je me rends bien compte qu'il y a deux choses, et c'est quelque chose avec lequel on échange beaucoup avec le Kevin Caudal, qui est l'assistant coach au Quimper Volley, donc club en Liga, là. Parce que lui, il est sophrologue aussi à la base. Et du coup, il a une approche
Okay.
assez importante au niveau des appétences, en tout cas au niveau psycho. Et tu vois, on échange beaucoup sur cet aspect-là, savoir comment tu abordes cette question de préparation mentale, parce qu'il y a des joueuses qui ont leur préparateur mentaux ou leur psycho. Individuel, chose que je trouve super, mais je trouve qu'il y a des manques de par le fait qu'il y a tout. Déjà, il y a des notions collectives, tu vois, enfin, par exemple, la contagion émotionnelle, ce genre de choses, qui est compliqué de travailler pardon, si t'es juste en prépa indiv à distance. Et en même temps, il y a des aspects sur lesquels je trouve que c'est aussi cool d'être peut-être extérieur au staff pour intervenir auprès d'un athlète. Comment ça se passait au BBH? Toi, c'est quoi ta vision là-dessus maintenant dans le sport collectif sur l'approche prépa mentale?
Au EBH, ce qui s'est passé, c'est que en milieu d'année, moi j'ai proposé justement, j'étais en relation aussi avec Tom Follin, qui est maintenant préparateur physique de l'équipe 1, et avec Jean-Paul Martinet, on a échangé justement sur comment est-ce qu'on pouvait mettre en place la préparation mentale avec le centre de formation et le groupe Espoir. C'est commencé, en fait, on a fait une intervention de groupe sur la psychoéducation et qu'est-ce qu'on appelle préparation mentale. Donc on a fait parler les joueuses, on a fait intervenir aussi, et c'était très intéressant, on a fait intervenir 2 joueuses pro à la fin qui témoignaient de. Donc c'était des joueuses qui étaient en équipe de France de hand féminin et qui témoignaient justement du travail elles qui faisaient aussi en préparation mentale au quotidien. Donc pour des joueuses qui sont en centre de formation qui veulent atteindre le niveau, c'est super formateur parce que se dire, ok, si elles le font à ce niveau-là, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Donc nous, ça nous permet aussi de nous crédibiliser derrière sur l'intervention. Donc ça c'était la première intervention et après moi je vous proposais donc moi j'étais surtout en charge du groupe Espoir, je travaillais un petit peu avec le centre de formation où je faisais des coups de main à Tom à l'époque, mais j'avais surtout à charge 6 joueuses du groupe Espoir et 2 joueuses du Pôle Espoir. Donc groupe Espoir c'est groupe réserve nationale, et avec ces 6 joueuses-là moi je leur ai proposé, j'avais commencé à faire une première séance globale en fait pour mieux les connaître justement et voir un petit peu les axes qu'on pourrait travailler et après c'était à la demande. Je te prends un exemple, ça sera parlant. Donc j'ai une joueuse qui était en fin de cursus, qui m'a demandé justement un accompagnement. On a fait 4-5 séances sur comment est-ce que je gère la transition de carrière, c'est-à-dire je finis le Pôle Espoir, je ne sais pas ce que je fais après, mais c'est dur aussi parce qu'émotionnellement, bah, j'ai bossé longtemps, j'ai fait beaucoup de sacrifices, et puis là, ça s'arrête. Donc comment est-ce que je gère ça? On a bossé par exemple à la fin avec elle là-dessus. Donc c'était plus à la demande, et plus du côté individuel que collectif. Et ma vision aujourd'hui, je dirais qu'il y a 2 choses. La difficulté, c'est forcément les budgets des structures et la vie et le sens qu'ils mettent à la préparation mentale, qui va jouer sur est-ce qu'on prépare mental aussi dans le staff ou pas. La difficulté de définir le métier aussi, parce qu'on se dit oui, mais l'entraîneur fait de la préparation mentale. Alors, il peut l'intégrer, mais c'est pas un métier. Enfin, c'est un métier en tant que tel, et un préparateur mental, il n'est pas entraîneur non plus. Et je te dirais, donc, les structures. Donc, il y a ce frein quand même où beaucoup de joueurs pro, joueuses professionnelles, font appel justement à quelqu'un d'extérieur pour bosser en partie individuelle. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, je pense qu'il faut aller très rapidement dans les sports collectifs, sur la partie collective. C'est ce qu'a beaucoup travaillé l'équipe de France de rugby sur ces 4 dernières années, avec Kael Campo, qui est président de la SFPS, qui travaille beaucoup là-dessus. En fait, lui, il intègre la psychologie sociale. Donc, c'est comment on fonctionne en. C'est pas de la socio, c'est comment la psychologie fonctionne en groupe. et il l'intègre justement dans son entraînement. Et là, il y a beaucoup de choses à faire, je pense. J'étais bah, pas plus tard que mardi soir sur un webinaire justement sur les émotions en sport collectif.
Ouais.
Et là, je pense que le préparateur mental a vraiment un rôle. Ça peut être améliorer la communication entre les joueurs quoi, sur le terrain pour que l'info passe. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'être ami ou d'être pote, c'est que l'info elle passe pour le projet de performance.
Ouais.
Il y a la répartition des rôles. Quel rôle j'ai? Est-ce que je suis titulaire? Est-ce que je suis remplaçant? Est-ce que je suis partenaire d'entraînement? Est-ce que le rôle, je l'accepte? Est-ce que je l'accepte pas? Et comment? Comment je fais avec ça? Il y a les émotions. Tu parlais tout à l'heure de la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que comment est-ce que je gère mes émotions pour éviter de foutre du stress au coéquipier à côté qu'on n'a pas à la base? Ouais, il y a tout ça. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de trucs hyper intéressants aussi, mais il faudrait faire un podcast juste là-dessus
Ouais, ce sera l'occasion
pour
parce que c'est.
approfondir. Mais complètement. Donc, il y a le côté individuel où tu vas entraîner des habiletés mentales qui
Ouais.
vont vraiment être propres à la joueur ou à la joueuse. Et puis, il y a tout le côté collectif. Et là, j'ai pas parlé du staff, c'est-à-dire qu'il y a l'entraîneur aussi intégré là-dedans.
Ouais.
Comment est-ce que l'entraîneur est communiqué avec son groupe? Est-ce
Ouais.
que l'entraîneur, lui, il est stressé quand il est sur le banc? Forcément, si tu as un entraîneur qui panique complet dès qu'il y a une évolution du score qui est un peu défavorable, bah, ça va transmettre forcément joueurs qui sont sur le terrain, quoi.
Ah,
Donc, il y a
puis...
tout ça à prendre en compte et ça, c'est pas du tout développé.
ah, ça résonne tellement dans chez moi parce que c'est en plus, tu vois, moi je le vois vraiment et c'est pas une critique parce que c'est la performance, c'est pas facile de faire de la performance. Il y a tellement d'enjeux et tellement d'éléments en même temps. Il y a des enjeux financiers en parallèle. Il y a plus, c'est plus que du sport finalement quand tu arrives dans le sport professionnel. Mais par contre, je retrouve tellement ce que tu dis dans déjà les aspects individuels, mais surtout les aspects collectifs parce que je les vois au quotidien. Et encore plus dans la relation de l'entraîneur au groupe et dans le choix des mots. C'est quelque chose qui, depuis, ça fait 3 ans maintenant que je suis post-master là, à travailler dans des clubs. Et je me rends compte que le choix des mots, c'est tellement impactant quand tu es entraîneur. Et du coup, je suis d'accord avec toi de dire que le préparateur mental, l'entraîneur n'est pas préparateur mental. Par contre, j'y vois une vraie plus-value si l'entraîneur est accompagné lui-même par un préparateur mental pour pouvoir accompagner son groupe. Parce que. Il y a tellement d'éléments, il suffit de c'est tout bête, hein. Il suffit d'utiliser des mauvais mots juste avant un match et tu vas changer du tout au tout ce que t'attends de tes joueuses alors que finalement tu essayais juste de favoriser la performance. Et tu vois, c'est des choses sur lesquelles je pense vraiment qu'on est, on est loin, loin, loin en France d'être à la page, notamment parce que il y a aussi ce truc de beaucoup d'entraîneurs qui, de par leur expérience, estiment qu'ils ont les compétences sur cet aspect-là, tu vois ce que je veux dire? Ils savent gérer un groupe, ils savent gérer des émotions, ils savent. Alors qu'en fait, finalement, c'est une science, c'est comme tout. On s'invente pas expert de la gestion des émotions, on s'invente pas. Enfin, et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je pense qu'on mérite tous de mettre notre ego de côté pour réussir à optimiser ça. Et même moi, en tant que préparateur physique, hein, parce que finalement, je gère un groupe aussi en séance et je suis au quotidien avec les athlètes. Et le choix de ce... et la manière dont je vais aborder mes discussions avec les athlètes vont impacter aussi les interrelations et la performance au plus long. D'un point de vue un peu plus global, quoi. Donc, c'est hyper intéressant de ce que tu viens de dire là. Et je pense que beaucoup de clubs, et même dès la 3 voire 4e division, serait même tous les niveaux, mais on va dire dès que tu en es sur un niveau un peu sérieux, mériterait de se pencher là-dessus, quoi. C'est hyper intéressant. On va essayer de passer quand même sur l'aspect ton expérience au Campus Sport-Bretagne. Du coup, tu as travaillé en tant que responsable de la performance. Il nous reste 1 minute 20. Je vais couper cet enregistrement et je t'en relance un deuxième et on enchaîne, ok?
Ouais, pas de souci,
Yes, à
ça
tout de
marche.
suite.
Je...
Take. Ok, Corentin, deuxième partie du podcast. On a été coupé par les joies de Zoom, parce que j'ai pas encore le budget pour m'acheter une application qui me permette de record en indéfini. En tout cas, ton arrivée, ton intégration au Krebs de Bretagne, au Campus Sport Bretagne, en tant que responsable de la performance. T'arrives là-bas, il me semble que c'était via un contact au CMS, si je dis pas de bêtises, pardon, que t'arrives sur ce poste-là. Concrètement, c'est quoi tes missions quand tu y arrives? Parce que finalement, responsable de la performance, c'est très très large, surtout sur un Krebs. Comment ça se traduit sur le terrain?
Clairement. Le contact, c'est Christophe Guégan qui est à l'époque, qui est toujours d'ailleurs médecin du sport au CMS à Brest, du coup avec qui on travaillait à Brest, au Brest Bretagne Handball, qui était référent, qui du coup me dit bah tiens, il y a une offre à Dinard, il recherche quelqu'un, du coup, je pense que ton profil serait intéressant. Et puis je postule, je suis pris, et du coup j'arrive là-bas, en fait c'est une création de poste à l'époque. Donc eux, l'objectif, quand j'arrive, c'est de structurer justement cette partie de haut niveau et cette partie d'accompagnement des sportifs en prépa physique, en prépa mentale, en réathlé. Et puis j'avais plein de missions, chef de projet aussi à côté. En plus en détail, le plus gros truc quand j'arrive, c'est la construction, le réaménagement complet de la salle de musculation. Ça, c'était par exemple une de mes missions quand je dis chef de projet, c'est ça, c'est les missions autour, annexes. Un autre exemple, c'est qu'on a fait un diagnostic, par exemple, territorial qui était piloté par la région, demandé par la région et l'ANS. Et l'idée, c'était d'aller voir et de questionner tous les besoins des structures, des pôles espoirs et des pôles France dans la région de Bretagne. C'est les missions qu'on avait. J'avais une mission de structuration de l'accompagnement des pôles espoirs qui étaient sur site. Donc, faut se visualiser. Sport Bretagne, c'est un ancien CREPS qui accueille aujourd'hui trois pôles espoirs, le volley, le badminton et le golf. Donc, trois sports différents. J'accompagnais prioritairement, c'est même pas prioritairement, c'était selon les budgets de chaque fédération. Ils prenaient en fait une prestation à Sport Bretagne pour être accompagnés en prépa physique, en réathlé, en prépa mentale, etc. Et on avait essentiellement le badminton en préparation physique, et le golf, préparation physique et préparation mentale. Ça, c'était la fédération qui demande justement une prestation à Sport Bretagne. Et on avait à côté, j'avais structuré une petite cellule de réathlé. Parce que quand je suis arrivé, il n'y avait rien. Donc en fait, quand les jeunes se blessaient, on avait des kinés, on avait une équipe de kinés, mais il n'y avait pas la transition, il n'y avait pas le lien avec le terrain et la prépa physique. Donc ça, c'était mon rôle. On avait une dizaine d'heures par semaine qui étaient comprises dans la pension des jeunes quand ils arrivaient dans Pôle Espoir. Et ils avaient un petit service de réathlé de une à deux séances par semaine s'ils avaient besoin. En gros, mes missions, c'était surtout de structurer de tout ça et que ça roule.
Ah, c'est une super ah, c'est déjà des belles missions entre guillemets et c'est sur le papier, c'est hyper séduisant. T'es resté 2 ans là-bas, du coup. On va pas parler en tant que saison parce que c'est pas vraiment un club, mais t'es resté 2 années sportives là-bas. Est-ce que tu as pu mettre en place ce que tu as voulu mettre en place? Qu'est-ce que tu retires de cette expérience? Et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir arrêter la collaboration, quoi?
Je te dirais, très intéressant, c'est du coup de voir le système fédéral et institutionnel, en fait, comment ça fonctionne, parce que c'était uniquement ça. On n'était pas, c'est pas du tout le même système de fonctionnement qu'un club professionnel. Donc ça permettait de voir l'inverse, enfin pas l'inverse, mais quelque chose de complémentaire du BBH de l'année d'avant, de voir deux systèmes, parce que c'est ça la complexité du sport en France, c'est qu'on avait deux systèmes, on a à la fois le système professionnels, c'est les entreprises, et puis à la fois le système fédéral et les structures fédérales, Pôle Espoir, Pôle France, INSEP, etc. Et tout mélanger, ça peut être assez complexe quand on arrive. Donc, moi, ça m'a permis vraiment d'approfondir les deux et du coup de pouvoir m'adapter aussi aux deux milieux de type de structure. Ça, c'est d'un point de vue global. Je te dirais que d'un point de vue technique, moi, j'ai beaucoup appris justement surtout la spécificité avec les jeunes, parce qu'on était uniquement sur des Pôles Espoir, donc ça va d'enfants qui sont, parce que c'est vraiment des enfants qui sont en sixième jusqu'à des lycéens qui sont en terminale. Donc ça me permettait aussi d'approfondir moi mes compétences en préparation mentale et en préparation physique spécifiques à ces publics-là. J'ai beaucoup appris aussi sur la réalisation, sur la construction. Donc j'ai construit en fait tout le réseau médical et paramédical autour des sportifs. Donc soit aller chercher un médecin du sport du coin, aller chercher des kinés. Aller chercher des ostéos, et puis après j'avais créé un réseau multidisciplinaire autour de donc le sport Bretagne est basé à Dinard, donc j'allais chercher à Saint-Malo par exemple des professionnels et j'animais un petit peu ce réseau-là. Donc ça, c'était super chouette de découvrir toutes les particularités, les spécificités de chaque discipline, et puis bah, de rencontrer de l'humain aussi derrière, avec chacun un cursus et puis une vision différente de la perf. Voilà. Et puis après, les côtés un peu négatifs, je te dirais que c'est le fonctionnement institutionnel, hein, qu'on connaît, qui est des fois limitant, parce que très complexe, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de directives, qui vont à la fois de la région Bretagne, qui vont à la fois de l'INSEP, parce que Sport Bretagne faisait partie du réseau Cantine INSEP. Le réseau Grand INSEP, c'est un réseau de structures qui est labellisé et l'INSEP dit OK, dans ce centre-là, ils sont équipés et ils sont OK pour accueillir du haut niveau. Voilà là-dessus. Et puis du coup, ce qu'on rencontre aussi en fait dans la structuration du travail en France, même dans tous les secteurs d'activité, c'est la multi des échelons, c'est-à-dire qu'on a N plus 1, N plus 2, N plus 3. Et du coup, on s'y perd un petit peu dans les projets, dans les recommandations, dans la vitesse aussi. Donc ça, moi, j'étais un petit peu frustré justement par la vitesse des projets. Je dirais, tu me demandais ce qui n'avait pas pu être mis en place. C'est pas forcément ce qui n'a pas pu être mis en place, mais c'est surtout le temps de latence entre l'idée et la concrétisation d'un projet. C'est une échelle temporelle qui est complètement différente. Et moi, ça ne me convient pas sur mon mode de fonctionnement et mon échelle à moi, mais ça n'appartient à qui à moi. C'est pour ça que j'ai décidé après de quitter Bretagne au bout de 2 ans. Et j'ai oublié quelque chose qui était intéressant à souligner. Je me demandais sur l'accompagnement des structures. C'était ouais, c'était du matériel qu'on avait sur site. En fait, on a totalement rééquipé la salle. Donc, on avait un budget public, hein, donc on peut le dire, on avait 100 000 euros, 200 000 euros pour équiper une salle de préparation physique. C'est un petit régal quand même là-dessus. Et là-dedans, il y avait aussi du testing. Donc, on avait des plateformes de force, on avait des capteurs de force, on avait un opto-jump, on avait, comment ça s'appelle, des capteurs d'endurance musculaire. J'ai perdu le nom, NFT, je sais plus.
Ça me dit
Bref,
quelque
qui
chose.
capte l'oxymétrie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un capteur qui tu poses sur une cuisse et ça te capte, en fait, le taux d'oxygène dans le muscle, en gros. Donc, c'est plein d'équipements, des wet bikes, enfin, vraiment quelque chose vraiment de qualité. Maintenant, je pense que le point négatif de ce centre, c'est qu'il est excentré. C'est-à-dire que, historiquement, il est resté à Dinard. Mais en fait, tout se passe à Rennes. La majorité des poules espoirs sont à Rennes, mais c'était aussi un avantage pour les stages, c'est-à-dire qu'on accueillait aussi beaucoup de stages de haut niveau. On avait par exemple le Pôle France Tennis qui est passé là-bas. Ils viennent une semaine et puis ils font un stage à la mer. C'est chouette, quoi. Moi, ça m'a permis aussi de voir un petit peu d'autres disciplines et de les accompagner là-dessus.
C'est vrai
Voilà en
que
résumé.
pour le coup, Dinard, ça reste excentré. On va dire, c'est pas un hub, c'est pas un centre forcément hyper stratégique, mais c'est vrai que d'un point de vue stage, ça reste un lieu privilégié parce que beaucoup de sports, beaucoup de clubs, même professionnels, seraient, je pense, hyper gagnants à passer un peu de temps là-bas. Ça te sort un peu de ton contexte habituel. Et puis, comme tu dis, le matériel est finalement de grande qualité maintenant. Et c'est même assez. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression que du coup, avec tout ce matériel de qualité, c'est un peu sous-exploité par rapport aux perspectives de travail que tu peux mettre en place avec des plateformes de force, de l'oxymétrie, un opto-jump, du matos, une salle de prépa qui est vraiment cohérente, un cadre qui est cohérent? Finalement, ça correspondrait vraiment à une structuration pour un club de très très haut niveau ou ce genre de choses, ce serait top quoi. Tu vois, moi quand tu me parles de ça, c'est vraiment ce que j'allais te demander en plus, c'est est-ce que vous aviez accès à du matériel de très haute qualité, puisque c'est des sous qui sont. Enfin, faut pas se cacher, quand c'est l'État qui paye, c'est plus facile que quand c'est un club. Donc, forcément, tu as accès à des choses que quand en club, on n'a pas accès. Du coup, tu as répondu, tu as dit que tu avais du matos de qualité. Toi, tu as pu exercer avec, faire du testing, tester les choses, essayer d'explorer un peu les perspectives. Ouais. Et tu
Complètement.
trouves.
En termes d'équipement, bah moi j'utilisais la salle tous les jours, donc c'est vrai que c'est royal quand on avait les golfeurs, ils sont 6, on a une salle qui est équipée dernier cri, on avait un bon hip thrust, tu vois, c'est des trucs, ça
Des
fait la
détails.
différence. Il y avait de la place, on avait 6 pistes d'haltéro. Bon, non, non, c'est un cadre, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est sous-exploité, c'est-à-dire qu'en termes d'utilisation de la salle sur une semaine, on était très loin d'être complet toute la journée, quoi. C'était vraiment que pour l'espoir. Donc, ce que je disais aux jeunes, ils avaient une chance inouïe d'avoir une salle comme ça, même des structures professionnelles n'ont pas. Donc, profitez-en. Et bon, et après, ils sont jeunes, c'est plus difficile à leur prendre conscience à cet âge-là. Et c'est justement ce qui travaille, donc mon remplaçant qui est enchaîné après derrière à partir de juillet-août, travaille justement actuellement sur comment valoriser ce matériel. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur des protocoles de testing, d'accueillir justement des athlètes, que ce soit hors structure ou structure, et de faire passer des protocoles justement pour après donner comment dire, des perspectives d'entraînement.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose que moi je réfléchissais avant de partir. C'est par exemple, tu parlais d'oxymétrie. Il y a, j'ai perdu son prénom, qui est pas mal en CrossFit. Il y a des tests justement de
Ah, Sean
physiologie.
Seal, Upside Strain.
Ouais, exactement. C'est ça,
Oui,
hyper
c'est.
spécifique du col endurance. Bah ça,
Ouais.
typiquement, ça serait l'idéal avec le matériel qu'on avait. C'était créer des protocoles de test, accueillir un triathlète qui est dans le coin, lui faire un petit protocole et l'avoir un petit peu en suivi. Ouais, je pense
Ouais,
que ça
c'est
serait
clair. Et puis,
une.
tu vois, moi, je réfléchis à ça, en fait. Alors, aujourd'hui, dans le contexte où je suis, j'ai pas les perspectives parce que j'ai trop de taf, entre guillemets, en même temps. Mais, tu vois, concrètement, être sur une équipe professionnelle en Bretagne, ta pre-season et tu cherches à faire un petit, je sais pas, un truc de une semaine ou quoi, aller sur Dinard, c'est être sûr d'avoir des installations de qualité et surtout pouvoir profiter de ce moment-là pour pouvoir tester les athlètes avec du matos de qualité. Alors on a toujours le débat de dire oui, mais si tu testes avec du matos que t'as pas dans l'année, c'est aussi un peu compliqué parce que tu pourras pas retourner à Dinard tous les 2 minutes, c'est sûr. Mais ça donne quand même des indicateurs et puis c'est toujours intéressant de pouvoir travailler avec ce genre d'outils. Et c'est clair que je trouve ça un peu dommage parce que tu vois, moi, bah, ça fait 3 ans maintenant que je suis avec une équipe pro, enfin la deux équipes pro, et je me rends compte qu'en 3 ans, j'ai jamais eu aucun contact avec ce campus-là. Ce qui est dommage parce qu'en fait, on a quand même sur Quimper, même si on n'est pas en Ligue des Champions, on a deux équipes qui jouent des niveaux professionnels et qui, du coup, on a quasiment ouais, 30 athlètes pro, quoi. Donc c'est un peu dommage de pas avoir pu faire bénéficier à ces athlètes-là une structure de cet acabit. J'espère que ça se développera parce que c'est clairement, je trouve, un outil sous-exploité sur cet aspect-là, quoi. Je sais pas si tu avais reçu, quand il était, toi, tu avais reçu des équipes bretonnes professionnelles en sport co qui étaient venues sur des stages ou ce genre de choses.
Non, c'est le. Alors, Bretonne, non, je crois pas. C'est la difficulté de ce genre de structure, c'est que leur milieu, c'est très institutionnel, c'est le milieu fédéral. Donc, forcément, le milieu professionnel, il n'y a pas beaucoup de contacts.
Ouais.
Et puis le milieu professionnel, bah, très pris. Des fois, suivant leur structure de stage déjà établie depuis des années.
Ouais.
Je sais qu'on avait eu l'équipe de France féminine qui était passée de volet,
De
qui était
voler, ouais,
passée
c'est
en
clair.
stage, qui sont souvent là-bas.
Ouais, c'est cool.
Maintenant, la difficulté quand ils sont en stage, c'est que forcément, ils sont en plein dans leur prépa. Donc, faire des tests là-dessus, proposer d'autres services, c'est tout de
C'est
suite plus
compliqué.
compliqué.
Ouais.
Mais je pense qu'il y a un truc à faire sur un stage début de saison où tu vas à la mer, tu te prépares pour ta saison. En plus, le cadre, il est hyper dépaysant, il est hyper agréable.
Ouais.
Tu fais tes tests et puis tu reviens en fin d'année pour un stage de préparation de travestival, par exemple, tu vois, et tu
Ouais,
refais les mêmes
complètement.
tests. Là, il y a un suivi, je pense, qui est intéressant. Maintenant, c'est sûr, il faut aller à l'INA, il faut suivre ça sur du long terme. C'est-à-dire, il faut 1, 2, 3 ans. Je sais que la Fédération de nage avec Palme, qui est basée à Rennes, avec le Pôle France, ils faisaient justement des stages jeunes où ils testaient tous leurs athlètes pendant une certaine année. Ils avaient vraiment un recul sur 2, 3 ans. C'était intéressant. Donc, si, tout ça, je pense que c'est intéressant à faire. Maintenant, c'est comment Sport Bretagne se développe au niveau humain et au niveau. Parce que forcément, il faut être présent aussi, ça c'est la difficulté, c'est qu'il faut être présent sur des week-ends, sur des vacances. Donc quand on travaille, moi par exemple, j'avais un statut de salarié, et bah, je travaille du lundi au vendredi, je fais un 38 heures, j'étais en cadre. Il faut pouvoir être présent après le week-end, après les vacances, sauf que bah, il y a des vacances aussi à prendre. Donc il y a tout
Ah
ça à gérer en fait. Donc c'est comment Sport Bretagne, moi, je peux t'en parler, j'y suis plus à l'intérieur, mais comment Sport Bretagne se développe et se développe humainement et cette
ah
structure justement pour faire face à ça. Ouais, clairement.
ok, bon, on va terminer par, du coup, une dernière partie un peu plus actuelle. T'as quitté Dinard il y a quelques temps, du coup, et tu t'es lancé là dans un nouveau projet plus orienté autour de la préparation mentale. Nous expliquer, du coup, pourquoi aller sur de la prépa mentale quasi uniquement et bah, du coup, quelles sont tes perspectives maintenant avec ce nouveau projet?
Clairement. Je dirais que la base de la réflexion, bah, il y en a deux. Il y en a une, c'est que je me suis vite rendu compte de la difficulté de se tenir à jour des connaissances scientifiques et de la littérature scientifique et de tout ce qui sortait, de tout ce qui est fait ailleurs, à la fois au niveau national, à la fois au niveau international, dans les
Ouais,
deux domaines. Et
ouais.
je dirais même dans les trois, parce que tu rajoutais la réathlée. Et donc, faire à la fois la casquette physique, mentale, réathlée, tu ne peux pas être bon partout.
Non.
Tu peux pas tenir à jour dans tout. Donc, c'est assez complexe. Et donc, ça, c'était la première interrogation. La deuxième, c'était la frustration, je pense, sur la préparation physique. C'est quoi, je pense, c'est j'en suis sûr, sur la préparation physique de ne pas pouvoir mettre tout ce que je connaissais en termes de compétences et de connaissances
Ouais.
avec mes athlètes. Je me retrouvais avec des groupes, bah, tu connais souvent ça, on souvent parlé, on sort au groupe, à l'organisation, à l'entraîneur, et ce sera jamais parfait, ça c'est clair. Mais du coup, le delta entre moi, ce que je connaissais et ce que je bossais du coup de mon côté pour être meilleur, et ce que je pouvais mettre du coup sur le terrain, bah, forcément
Ouais.
ça se grandissait de jour en jour. Et donc je me battais plus sur le côté institutionnel à faire comprendre aux entraîneurs que c'était intéressant que de faire mon taf. Donc j'en ai eu marre, je pense, à un moment donné. C'était le deuxième point. Et le troisième point. Dans tout ça, il y a une réflexion qui s'est amorcée où je voulais laisser à l'athlète un peu plus que la préparation physique. C'est-à-dire que bon, tu fais ta carrière de sportif de haut niveau qui dure une quinzaine d'années en général, et t'es bon au squat, et t'as développé un bench, c'est super, etc. Alors t'es en forme physique, t'es en santé, carrément. Mais je voulais laisser plus que ça. Et je trouve que dans la préparation mentale, tu touches à l'humain, tu touches à des compétences qui sont tellement universelles que tu lâches plus. Enfin, tu laisses plus du coup sur la suite de la vie et c'est plus formateur, je trouve, éducateur que la prépa physique. Donc, et je dis pas que la préparation physique ne laisse pas aussi, mais il y avait ça ajouté au reste deux autres points que je viens d'énoncer. Ça a fait un mix qui, moi, du coup, m'a dirigé là-dessus, quoi.
Ok,
Voilà.
c'est hyper intéressant. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi d'une certaine manière où je vois vraiment les perspectives d'évolution potentielle avec la prépa mentale. C'est vrai que bah moi, je suis quand même hyper orienté prépa physique et je me pose cette question parfois de dire est-ce que j'ai envie d'être que préparateur physique ou pourquoi pas aller sur d'autres choses. Je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas être expert. C'est impossible de tout faire et c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec le système, notamment dans les clubs professionnels où ils veulent. Tout et rien à la fois, pas mettre des sous sur des staffs parfois, alors que tout demande une expertise et pour être expert, ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de travail. La prépa, en tout cas, l'approche psychologique de la performance, c'est quelque chose qui vraiment est transversal et il y a vraiment des choses à aller explorer là-dessus qui sont encore sous-exploitées. Et finalement, on se retrouve, je trouve, je reviens encore une fois à mon contexte, hein, mais quand je vois les performances réalisées, psychologiques qui sont ben, psychologiques en tout cas qui sont plus attenantes à cet aspect-là que purement physique ou purement technico-tactique à un niveau professionnel tu vois et c'est vrai que je vois il y a quand même des gros leviers là-dessus et je trouve ça hyper intéressant du coup pour aller un peu plus loin là est-ce que tu peux nous présenter ton projet concrètement comment il se traduit et surtout qu'est-ce que toi tu veux proposer avec ce nouveau projet?
Vraiment, bah, ce nouveau projet, c'est en fait une entreprise en statut en micro-entreprise. Cette entreprise, en fait, elle a pour but, moi, ce que j'y mets dedans, c'est vraiment la démocratisation de la dimension mentale. C'est-à-dire de
OK.
sortir, on a une culture française qui est liée hein, à la psychologie générale, à la psychanalyse surtout. Quand on entend, alors il n'est pas français, mais quand on entend Freud, quand on entend des psychanalystes qui ont amené du coup les concepts, c'est hyper intéressant, mais ça a du coup bridé un petit peu et on est resté dans cette vision de la maladie et de
Ouais.
la négativité pour la psychologie. Et c'est bien parce que ça a permis aussi de développer, mais maintenant je pense qu'il faut repasser à quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus intégré, de beaucoup plus pratique, technique, et puis ne pas avoir cette vision du sportif malade, du sportif qui ne va pas bien parce qu'il a besoin justement d'un accompagnement, préparation mentale. Donc il y a ça. Et puis le projet, en fait, c'est du coup une entreprise de préparation mentale qui propose des services de préparation mentale donc sur elle, à la fois aux sportifs individuels, à la fois à des équipes, comme on parlait tout à l'heure sur la psychologie justement enfin, sur la performance collective, et à la fois des services de formation continue à destination en fait des staffs, c'est-à-dire un entraîneur qui veut en apprendre un peu plus sur l'apprentissage d'un geste technique. On aura besoin. Il a les formations fédérales, ok, mais des fois il y a des manques aussi là-dessus. Et c'est comment est-ce que la psychologie peut apporter, la psychologie du sport peut apporter justement des réponses là-dessus. Et puis il y a aussi tout ce qui est staff médical. Je monte une formation pour les kinés du sport, pour le En fait, leur transmettre des outils et des techniques, justement, comment accompagner leurs sportifs blessés quand il est avec eux, justement, sur la table. Sans devenir psychologue ou préparateur mental, mais intégrer au métier de kinésithérapie. Je sais qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps, hein, c'est des créneaux, ça va vite. Mais comment est-ce que j'intègre des petites choses, justement, dans ma communication, dans des outils pratiques comme l'imagerie mentale, dans juste écouter le patient ou le rediriger quand il y a besoin. Donc, ça, c'est des. Donc, c'est ce que je propose. Et l'idée générale de l'entreprise et du concept, c'est aussi d'intégrer un maximum, c'est-à-dire de passer avec, enfin, comment dire, je la refais, d'intégrer les techniques et les pratiques au sport pratiqué et aux spécificités des disciplines. C'est moi un point fort que j'avais sur les cursus STAPS et l'expérience, c'est de pouvoir analyser la discipline, comme on avait parlé avec les stages en master, de pouvoir une nouvelle discipline et de pouvoir créer des outils sur mesure justement entre fonctions, en fonction. Parce que, un exemple concret, la concentration, si je te parle de concentration comme ça, et avec un athlète, tiens, on va bosser ta concentration. Parce que tu peux bosser ta concentration en dehors, tu es en train de conduire une voiture, bah, une concentration très spécifique. Tu fais du triathlon, ta concentration, ça va être encore autre chose. Tu fais du golf, ta concentration, ça va être encore autre chose. Les différentes, en fait, chaque discipline va avoir un type de concentration vraiment différente. Et ça, faut le prendre en compte, parce que sinon, quand tu fais de la psycho, ce qu'on appelle la psychoéducation avec des jeunes, et que tu leur apprends les grands concepts, en gros, qu'est-ce que c'est concentrer, bah, c'est avoir point d'attention, des distractions, et comment je gère pour rester sur les points d'attention qui sont importants et ne pas partir sur les distractions. Ok, ça c'est le béaba. Mais maintenant, quand tu as compris ça, c'est comment est-ce que tu fais pour adapter ça à chaque discipline, à ta propre discipline et à ce que tu as besoin toi. Et c'est là où vraiment moi je veux me positionner, c'est de proposer un service qui est vraiment intégré à chaque discipline et ne pas hésiter aussi à arriver sur le terrain. Parce que on voit le préparateur mental, le psychologue, on est dans un cabinet, on est dans une salle à l'écart du terrain. Mais moi, l'idée, c'est de faire, oui, il y a ce côté-là à l'écart où on peut faire des choses, mais il y a aussi le côté intégré et d'être sur le côté du terrain et regarder ce qui se passe et bosser avec les joueurs sur des ateliers, des exercices qui sont vraiment intégrés dans leur pratique, quoi. Mais ce qui nécessite, pour terminer, comme on le disait au départ, une approbation aussi du staff et de l'entraîneur. Et ça, c'est loin d'être évident aussi. Les obstacles qu'il pourrait y avoir aussi.
Ouais, ok, c'est hyper intéressant. Enfin, ça rejoint vraiment ce sur quoi moi je pense qu'il y a des choses à faire et ça correspond parfaitement, à, je pense, à ce que doit être aujourd'hui la prépa mentale en sport collectif. Et comme tu l'as dit, ça, c'est tellement plus large que simplement la prépa mentale en sport. Ça peut être, comme tu le disais, en entreprise, dans la gestion de plein de problématiques quotidiennes. Et pour en avoir beaucoup discuté aussi. Je me rends compte que la prépa mentale, comme tu l'as dit, c'est un peu tabou. Même les athlètes encore aujourd'hui, ils voient ça comme ah, si je vois un prépa mental, c'est parce que ça va pas. Alors qu'en fait, si ça va pas, c'est peut-être parce que t'as pas vu un prépa mental avant, en fait, et t'aurais peut-être dû prendre le problème à l'inverse. Et au lieu d'être dans du curatif, d'être dans du préventif. Mais le problème, c'est que c'est souvent le cas aussi en France, cette approche curative. Je pense que ça dépasse même le cadre du sport performance, dans le sport santé, dans le. Aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont actives au niveau psycho et au niveau physique pour rester en forme et être en forme. Et être en forme, c'est pas simplement faire du sport. C'est un peu un ensemble de tous ces éléments-là. Et c'est clair que moi, je pense que t'as bien fait de partir là-dessus, surtout que c'est vraiment ton truc là. Et je suis content pour toi parce que je pense vraiment que c'est un domaine qui va péter. Enfin, on se rend bien compte qu'il y a quand même un élan en ce moment autour de ça. Et dans le sport aussi, alors on dit souvent que la prépa mentale a peut-être entre 8 et 10 ans de retard sur la prépa physique. Bah, clairement, dans 10 ans, on en reparle. Je pense qu'on ne sera plus du tout au même stade. Et c'est triste à dire, mais ceux qui n'auront pas suivi le mouvement, ils ne seront plus là. Il faut être honnête, ils ne seront plus là. Et pour revenir un petit peu au sport de performance, là, l'offre que tu proposes, je pense vraiment que ça peut vraiment correspondre aux besoins d'entraîneurs d'équipes professionnelles, en tout cas moi je le vois et j'hésiterai pas à en parler parce que je trouve que ça correspond vraiment aux besoins réels de terrain et aux problématiques sur lesquelles on est confronté au quotidien et j'ai hâte de voir comment ça va se débloquer et que ça va se développer avec ton travail, avec le travail de pas mal d'autres personnes qui bossent aussi en ce sens parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je pense que l'enjeu prioritaire pour moi en sport collectif en tout cas c'est vraiment d'aller intervenir directement auprès des sportifs sur le terrain comme tu l'as dit et de sortir un peu de ce carcan de psychologue prépa mental avec sa blouse et son sofa, tu vois, parce que c'est un peu ce qu'on retrouve. Alors, c'est hyper important cet aspect-là aussi. Je pense que c'est. Et cette approche, peut-être un peu plus, comme tu l'as dit, thérapie et médicale, est hyper importante dans certains cas, mais vraiment pour les sportifs en tout cas. Moi, c'est un enjeu, tu vois. Souvent, je me questionne sur moi, ce que j'aurais été si j'avais eu ces outils-là à 16 ans. à 14 ans. Si dès 14 ans, j'avais eu des outils de ce type-là pour pouvoir être un meilleur sportif, honnêtement, au-delà du fait que j'étais limité simplement par mes capacités physiques à un moment, je pense vraiment qu'on peut aller beaucoup plus loin en tant que sportif que ce qu'on fait juste par des leviers mentaux qu'on n'a pas explorés. Et c'est tellement dommage, c'est souvent ce que je dis aux athlètes, et c'est un peu ma philosophie d'essayer d'optimiser tout ce qu'on peut optimiser pour être le meilleur sportif qu'on peut être, ou la meilleure version de soi-même, et ça dépasse même juste le sport, la meilleure version, le meilleur humain qu'on peut être. Et c'est tellement dommage de passer à côté de leviers qui sont quand même faciles d'accès. C'est pas compliqué de contacter quelqu'un qui est compétent. Après, c'est pareil, et d'ailleurs, je vais te questionner là-dessus aussi. Ça demande juste une démarche et un petit déclic, et je pense que ça va venir, en tout cas, et je l'espère. J'espère pour toi aussi. Tu vois, j'ai une question peut-être qui va aussi être un petit peu un bilan de tout ça, mais on se retrouve quand même aujourd'hui avec l'essor de la prépa mentale, avec beaucoup de formations, beaucoup de différentes approches. Toi, je te parlais tout à l'heure de Kevin, mon collègue, qui est plus orienté sophrologie, et j'ai pas mal échangé avec lui là-dessus. Tu as différents types de courants de pensée, tu as différents. Comment tu penses que la prépa mentale va évoluer sur cet aspect-là? Parce que c'est un peu comme la prépa physique il y a quelques années et encore aujourd'hui. La multiplication des formations, la multiplication. Des gens qui s'autoproclament compétents, ça met un peu, je trouve, un horizon brouillon. On a des athlètes qui savent pas trop vers où aller, qui savent pas sur qui compter et sur quel type de formation il faut aller. Et moi, souvent, je me répète, et c'est aussi parce que je suis pas le plus spécialiste de la question. Moi, pour moi, on a souvent entendu parler de ça, tu vois, la SFPS, ce genre de choses qui vont permettre de légitimer un petit peu la fonction, mais c'est comme pour la prépa physique, finalement, tout le monde peut s'autoproclamer préparateur mental, tu vois. Donc, comment tu vois l'évolution sur cet aspect-là pour essayer de clarifier la chose? Parce que les athlètes, finalement, ils ont pas le. C'est opaque pour eux. Tout ça, c'est vraiment trop opaque.
Clairement, pour répondre à une question d'évolution, je vais reprendre l'évolution justement de la préparation mentale, tu vois, depuis les années 50. En fait, pourquoi c'est arrivé un petit peu dans cette cacophonie où on ne sait pas vers qui aller, c'est parce qu'à la base, qui s'occupait de ça, c'était les médecins. Dans les années 50, le référent, c'était le médecin du sport qui dirigeait un peu tout, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, où il y a des médecins qui ont du mal à déléguer. Bon, ça, c'est un autre sujet. Les médecins du sport, du coup, sont emparés du coup de la psychologie parce qu'il n'y avait rien, et ils l'ont bien fait. Et ils avaient intérêt justement à le faire parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose à faire. Et puis ensuite, il y avait les psychologues. Et puis les psychologues, du coup, se sont rendus compte que bah ouais, il y a le côté psycho, il y a le côté thérapie, il y a le côté individuel où tu bosses sur la santé mentale. Et puis il y a le côté entraînement. Mais l'entraînement, c'est complètement différent. Entraîner des habiletés mentales, c'est pas la même chose que soigner. Il y a vraiment la différence. On demande souvent c'est quoi la différence entre un psychologue et un préparateur mental. Le psychologue, c'est vraiment le soin à la santé, qui peut aussi être formé à la préparation mentale et intégrer des outils. Mais le préparateur mental, lui, son rôle, c'est pas de soigner. Son rôle, c'est de rediriger. Quand après, il voit qu'il y a un truc à faire là-dessus. Puis, on est arrivé du coup dans le métier de préparateur mental n'existait pas. Et puis, dans les années 70-80, il y a l'apparition de la sophrologie, du coaching, du psychothérapeute, etc. Tous les métiers qui sont aussi très bien, mais qui ne sont pas spécifiques au sport. Il faut avoir une connaissance du milieu sportif, une connaissance de tous les facteurs qui peuvent jouer pour accompagner un sportif. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui de. Alors, j'ai perdu son prénom, une athlète en. J'ai eu d'Athènes en athlétisme qui s'était accompagné justement d'une psycho-énergéticienne qui peut être très bien en tant que telle. Mais en fait, elle savait même pas les règles de l'athlétisme. Et du coup, il y avait complètement un décalage et toutes ces interventions étaient complètement décontextualisées du milieu sportif. Et donc, pour en arriver aujourd'hui, la SFPS aujourd'hui travaille sur la reconnaissance du titre de préparateur mental.
Qu'on
Ça,
rappelle ce
c'est
que
vraiment
c'est la
quelque chose qui va
SFPS.
apporter, je pense, sur l'avenir.
Parce
Société
que.
française de psychologie du sport,
Voilà,
carrément.
parce que.
C'est une société savante qui a été créée, comme il y a la Société française de psychologie. Donc, elle est rattachée à la Société française de psychologie. Donc, c'est la Société française de psychologie du sport qui est créée dans les années 80, je crois, de mémoire. Dans les années 2000, justement, Ripoll, je sais plus, qui a édité une charte, justement une charte déontologique. Quand on est préparateur mental, on s'engage à respecter une charte. Parce qu'il y a ça aussi, c'est hyper important. On ne fait pas n'importe quoi avec un sportif. Je te prends un exemple. On ne va pas. Quel exemple pourrais-je trouver? Si on sent que le sportif n'a pas les ressources pour faire face, par exemple, à une prise de conscience de quelque chose qui est assez important, par exemple, un arrêt d'une carrière, un truc bidon, le sportif, il sait qu'il veut arrêter sa carrière, il est plus motivé, il trouve plus les leviers de motivation, mais du coup, c'est tellement dur de remettre tout en question qu'il peut pas y aller, il n'a pas les compétences et les capacités mentales, au niveau santé mentale, le contexte pour faire face à ça. Et bah, quelqu'un qui va. Un préparateur mental s'engage aussi à prendre tout ça en contexte. Je prends un autre exemple, c'est le secret médical. C'est-à-dire qu'un préparateur mental s'engage à respecter la confidentialité de toutes les informations qui sont données en séance.
Ouais.
Et il y a un engagement avec l'athlète, et l'athlète, un préparateur mental se doit de demander justement à l'athlète si c'est OK pour divulguer telle ou telle information à l'entraîneur, au coéquipier s'il y a un besoin ou pas. Donc tout ça, pour revenir que donc la SFPS a vraiment, je trouve qu'elle fait vraiment un super travail sur la structuration du métier, donc avec cette charte, avec la reconnaissance du titre. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que je suis coiffeur et je veux mettre préparateur mental, j'affiche ma plaque sur mon cabinet. Il y a personne qui va venir m'ennuyer. Un psychologue, c'est pas pareil. J'ai
Ouais.
passé par un cursus, par de Un kiné, c'est pareil. Donc c'est mais ce qu'on retrouve aussi avec la prépa physique. Hein.
Bah
C'est
oui,
difficile. Donc
complètement.
je pense que de plus en plus, ça va de plus en plus, ça va se structurer. Et il y a autre chose, c'est que les médias en parlent de plus en plus d'un côté de santé mentale. Alors on n'est pas encore sur la prépa mentale, même si ça commence à venir aussi. Je sais que le rugby l'a fait beaucoup,
Ouais.
avec des petits reportages sur qu'est-ce qu'on fait en fait en préparation mentale.
Ouais.
Et il y a aussi la santé mentale avec un documentaire qui vient de sortir, la Strong, sur
Ouais,
Prime
j'ai vu.
Video,
Ouais.
qui revient. Je l'ai pas encore vu, il paraît qu'il est chouette, sur la santé des sportifs de haut niveau. Il y a beaucoup de documentaires Netflix aussi qui sont faits,
Ouais,
qui sont
c'est vrai.
diffusés maintenant. Et je pense que grâce à ça, les sportifs vont se rendre compte que, ah ouais, il y a un truc. Il y a peut-être un truc à faire. Alors, il faut aussi faire bien attention de ne pas mettre la préparation mentale comme la recette. C'est-à-dire que ça fait partie d'un tout.
Ouais.
Il y a des athlètes qu'on n'a pas besoin, il y a des athlètes qu'on n'aura pas besoin maintenant, mais qu'on aura besoin plus tard. Et c'est pas le remède à tout non plus. Donc, faut pas tomber dans un. On va dire dans des dogmes et dire que la prépa mentale, ça va tout soigner. Donc, ça fait partie de la performance, faut le prendre en compte. Et après, il y a plein d'autres choses. Donc, voilà ma vision. Tu vois, je pense que ça va aller de mieux en mieux, mais il faut pousser. Et comme tu dis, ça passe par démocratiser et montrer à l'athlète que le mental, ça s'entraîne aussi, quoi.
Ok, ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est comme pour les aspects. Moi, j'aime bien parler de ça, du quadriptyque, si on peut dire ça. En tout cas, des différentes parties qui composent la performance technique, physique, mentale et environnementale. Et finalement, l'un n'est pas supérieur à l'autre. Tout doit être équilibré à un certain moment. Et suite à une analyse, donner les solutions à l'athlète en fonction de ce qu'il a besoin. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas omettre un des aspects, comme des fois on le fait sur l'aspect psycho. Et comme on le faisait beaucoup sur l'aspect physique, et parfois on le fait encore, tu vois. Donc, non, c'est hyper intéressant. Bon, ça fait déjà, ça va faire bientôt plus d'1 heure et demie qu'on parle. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les liens de ton nouveau projet? Il me semble que le nom c'est Evolve. Comment tu le. Déjà, très rapidement, en 30 secondes, pourquoi ce nom? Et comment c'est. Quelle est l'idée derrière ce nom?
Evolve, ça veut dire évoluer en anglais. C'est pour ça. J'essaie de te résumer une phrase. Évoluer, ça correspond bien parce que c'est quelque chose qui est perpétuel en mouvement.
Ouais.
L'idée, c'est pas d'aller à un point A, un point B et on s'arrête. C'est de se remettre tout le temps en question et d'évoluer constamment. Pas comme souvent on entend être meilleur que toi-même. J'aime pas trop cette expression-là parce que bon, vous avez un peu tout et rien dire. Mais par contre, évoluer dans la personne que t'es, dans le sportif que t'es, pour justement toujours aller questionner ce qui se passe, quoi.
Ok, cool,
Voilà.
super. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup Evolve sur les réseaux? T'as un site? Comment ça se présente?
Bon, il y a une page Instagram qui a été créée pas plus tard que la semaine dernière. Donc c'est evolve-du-8 training, je prep, non, je confonds avec l'adresse mail, evolve-du-8 prep mental. Donc là, tu peux, de toute façon, je pense qu'on repartagera après avec le
Yes.
podcast. Donc il y a une page Instagram, il y a une page LinkedIn aussi pour le professionnel, il y a du site internet en construction et devrait sortir début décembre.
Ok, trop bien. Bah, c'est une super nouvelle. Je partagerai tout ça sur les réseaux et sur le podcast et sur Smart Training. Et j'espère que ça va prendre petit à petit, que tu vas trouver ton compte. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi tes objectifs à moyen long terme là sur ce projet-là?
Je dirais les objectifs, c'est déjà de la notoriété, hein, c'est le premier, c'est quand on lance une nouvelle entreprise, un nouveau concept, c'est que déjà un maximum de personnes aient conscience que déjà le concept existe, qu'il y a ça à Rennes, parce que pour l'instant personne ne sait que ça existe, un peu, et que je pense que le premier objectif, ça va être d'avoir déjà deux structures en lien. Je travaille déjà avec le hand, avec quelques athlètes, et puis que les sportifs, que les structures, que les fédérations, elles réflexent justement de dire, tiens, il y a une ressource aussi ici qu'on peut utiliser. Ça, c'est le premier. Et puis le deuxième, c'est de créer un réseau avec tous les préparateurs. J'ai déjà commencé, mais les préparateurs mentaux, les psychologues et les kinés, les préparateurs physiques qui sont dans la région justement pour créer un petit réseau sympa et puis travailler ensemble, quoi, et partager tout ce qui se passe.
C'est un super projet, j'espère que ça va prendre et je te souhaite en tout cas de bien réussir ça à l'occasion. Moi, s'il y a des besoins, je sais vers qui je me tournerai. Après, c'est une question financière finalement. À la fin du bal, c'est toujours une question de finance. Mais bon, je pense vraiment qu'on est sur un truc qui va exploser dans les mois et les années qui arrivent. Donc, je te donne beaucoup de force. Merci Corentin pour l'heure et demie que tu nous as donnée. C'est cool. Je trouve que c'était encore un podcast hyper intéressant. Plus je fais des podcasts, plus je me rends compte qu'il y a quand même des énormes liens entre tout, prépa physique, prépa mentale, entraînement, expérience de vie. Finalement, tout est plus ou moins lié et c'est ça que je trouve vraiment passionnant. Et j'espère que ça aura passionné les auditeurs également. Pourquoi pas refaire un deuxième podcast un de ces jours, peut-être une table ronde, peut-être quelque chose comme ça. Faudra voir. Finalement, Quimper-Rennes, c'est pas quand même, c'est pas non plus très très éloigné. On n'est pas encore à des années-lumière en termes de distance, donc, il y aura moyen de se faire ça un jour, je pense. Mais en tout cas, merci encore pour ton temps et à plus.
Carrément, ben merci Sam pour ce temps-là et puis je te souhaite le meilleur aussi de ton côté.
Yes, merci.